Dans le but de fournir une passerelle entre l'employeur et l'employé, la UFM vous propose tous les mardis
de 19h05
la YouJob. Un débat sur le sujet lié à l'emploi, des offres d'emploi et même des conseils.
Et soyez les bienvenus à votre rendez-vous de tous les mardis soirs. C'est YouJob, mesdames et messieurs, sur la 94.7 et UFM. Vous nous suivez à Kinshasa, en dehors du pays. Vous pouvez nous retrouver également sur les réseaux sociaux. Alors, c'est la passerelle entre l'employeur et l'employé. C'est soir, nous discutons autour non seulement d'un événement, mais c'est déjà devenu presque un fait social à Kinshasa. Et cette année, encore un sujet très intéressant. Alors, je reçois ceux qui sont derrière la baguette, ceux qui sont derrière la machine pour l'organisation et la tenue de cet événement. Je reçois les seniors programme manager et chef de projet d'Enkilo Bantu. Bonsoir, David Boka.
Bonsoir.
Il n'est pas seul, il est accompagné de son assistant et les project officiers, Ray Motema.
Bonsoir.
Bonsoir à vous et un plaisir de vous recevoir dans YouJob et surtout pour échanger sur cet événement qui arrive. Nous sommes à 2 jours du premier grand rendez-vous de l'année. Je parle d'un premier rendez-vous parce qu'il y aura un autre quelques semaines après. Cette année, le grand thème, c'est l'innovation et les compétences vertes. J'ai dit Enkilo Bantu, c'est aujourd'hui déjà pour ceux qui sont dans les corporates. Enkilo Bantu est presque un fait social, mais cette année, vous avez jugé bon de concentrer les échanges autour de l'innovation et des compétences vertes. Monsieur David Boka, monsieur le chef de projet, pourquoi ?
Alors, les choix de ce thème est justifié par la dynamique mondiale actuellement. Comme vous le savez, aujourd'hui, dans tous les pays, on parle de l'aspect transition verte. Pourquoi ? Essentiellement parce que un développement n'est pas intéressant dans un pays s'il n'est pas durable. Et le développement durable appelle à ce que ceux qui vivent maintenant puissent satisfaire leurs besoins sans contrecarrer la possibilité pour les générations futures de satisfaire aussi leurs besoins. Donc du coup, RDC, étant donné que c'est un pays qualifié des scandales géologiques, on a des matières premières, on a une forêt qui contribue à la préservation de la nature, c'est intéressant d'évaluer cet aspect, voir dans quelle mesure la RDC pourrait aller vers la transition verte et surtout comprendre quels sont les types de compétences qui sont nécessaires, qui sont pertinentes pour que la RDC puisse faire cette transition réussie.
Alors, je trouve vraiment que ce sera très intéressant cette année. Compétences vertes, transition verte. À un moment, on va même utiliser notre langue de tous les jours à Kinshasa pour permettre à tout le monde, en tout cas, de mieux comprendre ce que nous sommes en train de dire. Mais avant ça, je vais venir vers Ray pour qu'il nous dise, messieurs l'assistant, qu'est-ce qu'Enkilo Bantu nous propose déjà cette année ? Qu'est-ce qu'on doit attendre de cet événement ?
Et bien cet événement cette année elle sera quoi très intéressante parce que ça permettra à un large public hein, d'essayer de comprendre en profondeur les questions de thématiques en ce qui concerne tout ce qui est innovation mais lié avec effectivement les questions vertes. C'est essentiel pour cela parce que quand on regarde juste aujourd'hui le monde technologique avec les avancées qu'il y a, l'utilisation des téléphones, avec les voitures aujourd'hui intelligentes automatiques qui marchent sur base de ce qu'on appelle les batteries faites au lithium, on comprend l'importance et la nécessité du public en général de comprendre ces différentes thématiques, raison pour laquelle différents profils sont invités, que ce soit des personnalités importantes, que ce soit des chefs d'entreprise, effectivement ceux qui sont aussi dans ce domaine-là vert, mais aussi un public un peu plus accessible, tels que les jeunes entrepreneurs et même certains étudiants.
Alors, je pense que certains auditeurs pourraient se poser des questions. On parle de cet adjectif, de cette couleur qui revient. Vert, vert, vert. On veut que les gens s'habillent en vert ou comment ? Je pense que certains ne pourraient pas encore comprendre. D'autres qui sont déjà avancés comprennent. Mais pour la basse classe, qu'est-ce que vous appelez aujourd'hui par compétences vertes ?
Alors, compétences vertes, ce sont toutes les connaissances nécessaires qui sont indispensables pour exercer son activité sans détériorer l'environnement. Donc, quand on parle des compétences vertes ici, ne voyez pas seulement tout ce qui est vert, ne voyez pas tout ce qui est agriculture, mais voyez tout ce que vous faites en préservant l'environnement. C'est ça, compétence verte.
Donc là, on comprend directement que tout le monde a une part, en tout cas, et une responsabilité pour préserver l'environnement. Donc, compétence verte, chaque geste, chaque action que vous menez pour préserver l'environnement. Et pourquoi organiser des échanges autour de cette question ?
Comme vous le savez, on les dit assez souvent que c'est du choc des idées qui jaillit la lumière. Pour arriver à la transition verte, on ne peut pas les faire en étant seul. Il faut une sorte de conjugaison d'efforts de l'ensemble, je dirais, de la communauté pour aller vers la transition verte. C'est ainsi que, tel que Ray vient de le présenter, il y a une certaine diversité dans les publics qui est concerné par cette problématique, de sorte qu'on puisse identifier les éléments pertinents et surtout divers pour apporter des réponses, des propositions qui répondent réellement à la problématique de la transition verte en RDC.
On va revenir sur cette question de transition et compétences vertes, mais l'autre mot-clé de ces thèmes, c'est l'innovation. Et quand on parle d'innovation, c'est un terme qui revient de plus en plus aujourd'hui dans des conférences, des forums, des événements, mais c'est aussi vaste. Vous ciblez quoi exactement? Bien sûr, je pose la question à Ray. Hein.
Eh ben, l'innovation, comme vous l'avez dit, c'est une expression assez vaste, mais dans ce contexte, c'est surtout les nouvelles façons ou les meilleures pratiques que l'on pourrait développer en ce qui concerne effectivement la conservation de notre environnement, de la nature, bien les meilleures utilisations des ressources naturelles que nous avons, vous voyez, que nous avons, que ce soit les ressources du sous-sol ou autre. C'est dans ce contexte-là, effectivement, que nous parlons d'innovation.
Alors, comment ça se fait ? On parle d'innovation, mais quand on parle d'innovation, on parle d'action aussi et de personnes parfois qui sont initiées ou qui osent, qui mènent des actions. Ça se passe comment ? Des discussions vont tourner autour de personnes qui ont de propositions, ces solutions, ou ça va passer par des moments d'information ?
Effectivement, ça sera très interactif. Déjà, il y aura effectivement des panels, hein, différents spécialistes qui expliqueront un peu les différentes activités sur lesquelles ils travaillent, qui ont un lien effectivement avec ces questions vertes et ces questions d'innovation. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous ferons une forme d'état des lieux par rapport à la situation du contexte de la République démocratique du Congo. Où est-ce que nous en sommes en termes de compétences vertes? Et cela à tous les niveaux, que ce soit au niveau gouvernemental, au niveau organisationnel, et même au niveau de l'éducation. Est-ce que à ce niveau-là, nous sommes assez sensibilisé sur ces différentes questions. Sur base de cet état des lieux, eh ben, nous réfléchirons sur les solutions à apporter à ces différentes problématiques. Et de ces différentes solutions naîtront effectivement des projets ou bien des actions que nous pourrons mener effectivement conjointement.
Donc c'est clair, ici tout le monde est invité, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez personnalité et public, vous avez une responsabilité, que même vous soyez un marchand, vous soyez un commerçant, tout le monde est impliqué parce qu'il s'agit d'une responsabilité sociale, la responsabilité écologique, il faut protéger notre environnement, mais déjà à Kina, hein, tout le monde vraiment, à Kina, environnement, écologie, ah voilà, changement climatique, en tout cas, c'est de l'utopie. Qu'est-ce que vous pensez dire à ces personnes déjà? Parce qu'il faut convaincre ces gens à venir participer à l'événement.
Alors, la première chose que je vais dire, c'est que la question de l'environnement, ça concerne tout le monde. Il suffit juste de voir combien de personnes meurent à cause du paludisme. On va dire qu'on meurt à cause du paludisme, mais le paludisme est causé par quoi? L'un des éléments qui cause l'attrait des moustiques, ce sont les immondices qu'on a. Ce sont les eaux qui ne sont pas canalisées. Donc, si on a cette responsabilité, on est sensibilisé pour savoir que la responsabilité est commune, on n'aura pas ces types de réflexions-là où on dit que ce sont des histoires des blancs, bulots communaux, ainsi de suite. Parce que ça concerne tout le monde et les conséquences, nous les vivons directement ici. Il y a un médecin, l'un des plus grands pneumologues de l'Afrique, qui vient dernièrement de sortir un article où il dit que la pollution en RDC tue plus que le paludisme. Quand j'ai vu cet article-là, je me suis dit, ah non, je ne pense pas. Mais il a expliqué, par exemple, le fait que Il y a un gaz très toxique sur lequel on ne prête pas beaucoup plus attention, c'est le monoxyde de carbone, et qui est émis 4 fois plus avec les motos qu'avec les véhicules. Mais regardez simplement à Kinshasa, on a combien de motos. Ça, pour c'est voir fou. Que l'air que nous respirons à Kinshasa, c'est un air qui est impur. Mmh. Et ça, on n'est pas sensibilisé, on ne tient pas compte de tout ça. Donc, c'est ce type de questions qu'il faudra aborder et voir quelle serait la réponse qui serait appropriée pour résoudre ce genre de problématiques.
Déjà, donc, par rapport à cette problématique de motocycliste, donc, il faudra réfléchir. Est-ce qu'il y a déjà des propositions où il faut participer à l'événement pour rentrer dans les bains?
Je pense qu'il y a certaines choses où nous laissons la primeur à l'événement, parce que l'événement, c'est déjà ce jeudi. Et après, on pourrait faire d'autres émissions, d'autres échanges, parce qu'au travers de ces conférences, il y aura forcément des plans de sensibilisation qui seront mis en place et qui vont divulguer certaines résolutions, certaines propositions qui sortiront de ces forums.
Alors, on parle ici donc vraiment d'une démarche très, très ambitieuse et qui pourrait vraiment avoir un impact énorme dans notre pays. Nous sommes à Kinshasa particulièrement. Ici, c'est l'une des villes les plus sales au monde, en tout cas. Il ne faudrait même pas attendre un mètre, voire même quelques centimètres pour ne pas voir un déchet au sol. Donc, c'est un problème aussi des mentalités. Il faudrait vraiment travailler énormément là-dessus. Et c'est pour ça nécessairement que vous avez voulu commencer cette année à Kinshasa, parce que Nkelobantu est à sa 5e édition et d'habitude vous l'organisez à Kinshasa, mais depuis l'année passée vous avez migré pour le sud-est de la République démocratique du Congo. Cette année vous avez pensé organiser sur le deux pôles. Quelles sont vos motivations?
Alors, par exemple, la question de la transition verte, c'est une question, je dirais, nationale. Alors, on a voulu aborder ce thème parce que de plus en plus, on voit les conséquences néfastes de notre mauvaise utilisation de l'environnement, la mauvaise gestion de l'environnement. Donc, il est important à ces stades qu'on puisse essentiellement sensibiliser, éduquer la population sur tout ce qui est compétences vertes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que par rapport à Kolwezi, l'année passée, on a travaillé essentiellement sur le secteur minier. Vous savez que le secteur minier, c'est un secteur qui contribue à plus de 70% du PIB national. Donc, c'est un secteur qui est producteur des richesses pour la RDC. Alors, l'année passée, on a réfléchi sur les investissements dans ces secteurs. Vous savez que les secteurs miniers, c'est un secteur on appelle ça en intensité de capital élevée. Donc, c'est un secteur qui demande beaucoup d'investissements, notamment en termes de technologie. Mais pour aller vers cette technologie et d'autres technologies vertes d'ailleurs, ça demande à ce que certains investisseurs externes viennent en RDC investir dans le secteur minier. Mais la problématique, c'est quelle image renvoie notre secteur minier? Aujourd'hui, on parle des investisseurs qu'on appelle socialement responsables, qui tiennent compte de l'écologie, qui tiennent compte des compétences vertes, mais est-ce qu'on a ces compétences en RDC? Alors la première chose, c'est essayer de changer les narratifs, changer cette image, cette perception pour attirer les investissements. Et maintenant, quand vous voulez attirer les investissements, il y a autre chose. Vous aurez la technologie, mais est-ce que vous avez les compétences nécessaires pour utiliser cette technologie? D'où la thématique de cette année pour Kolwezi.
D'où la thématique à Kolwezi. Alors, je ne vais pas sauter les étapes parce que j'ai déjà des questions très intéressantes. Je trouve que c'est très appétissant. J'ai des questions là-dessus. Je vais revenir sur Kinshasa. Ray, c'est déjà jeudi. Comment ça va se passer? Qu'est-ce que vous avez prévu? Les portes s'ouvrent à quelle heure? C'est à Rotana. Et qu'est-ce qu'il y aura?
Effectivement, c'est ce jeudi, ça va commencer à 9h. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ceux qui se sont enregistrés ou bien qui est au courant de l'événement ont déjà, et beaucoup d'entre eux sont en train de recevoir effectivement les confirmations. Donc c'est essentiellement ces personnes-là qui seront là. Alors ça sera super intéressant, nous n'allons pas...
S'il faut préciser quelque chose, ce n'est pas vraiment ouvert à tout le monde. Il y a deux personnes qui ont postulé, que vous avez invité.
Étant donné que c'est un cadre de réflexion assez important, effectivement, c'était ouvert à tout le monde. Mais afin de pouvoir encadrer des choses, effectivement, jusqu'à 2 jours de l'événement, il est normal à ce que certains reçoivent effectivement ces confirmations.
Donc il fallait s'enregistrer. Comment ça s'est passé? Peut-être pour prochaines éditions, il y a des gens qui suivent et qui sont intéressés. Comment se font les enregistrements? Comment se font les inscriptions?
Nous communiquons toujours tous ces détails à travers nos différentes chaînes, hein, telles que notre website Kelobantu. En tout cas, c'est très simple. Il suffit d'aller sur notre chaîne, notre site web Kelobantu pour avoir toutes les informations. Ou alors, rien que être abonné sur nos différentes chaînes de Sodeco Développement. au moment où on prépare l'événement quelques semaines, voire même quelques mois à l'avance, effectivement, nous communiquons déjà sur les différents détails, à savoir que chaque année est assez exceptionnelle et spécifique, alors les thématiques ou bien les façons de faire sont aussi originales. Mais tous ces détails sont effectivement sur les sites.
Donc on rentre sur le film et l'événement, c'est jeudi. L'activité commence à 9h. Les gens qui se sont inscrits commencent déjà à recevoir les confirmations. Et quelles sont les personnes qui se retrouvent aujourd'hui dans la liste des participants, les personnes de quel secteur, pour qu'on ait déjà une idée sur comment les choses vont se dérouler?
Alors, comme je crois que je l'ai dit un peu tantôt, nous avons des personnes à presque tous les niveaux. Ça veut dire, nous avons des décideurs, nous avons effectivement des chefs d'entreprise et surtout des entreprises qui sont effectivement dans ce secteur de l'énergie, de la technologie ou effectivement de ces secteurs verts. Nous avons aussi des différents juristes, vous voyez, des entrepreneurs. Nous avons essayé de faire ce bouquet de différentes personnes afin que cette réflexion soit en tout cas pertinente. Donc c'est ce profil effectivement qui seront là.
Alors quand on parle de réforme, on parle des décisions, on parle de changement, des prises de décisions pour bien être plus précis. On voit également le gouvernement. Alors est-ce que le gouvernement a une certaine implication également dans l'événement? Est-ce que le gouvernement a également invité? Et parce qu'après, c'est des décisions qui doivent être considérées. Et quelque part, si je vais me mettre aussi à la place de participants, quel serait l'avantage de participer à cet événement? Est-ce qu'il y a quelques activités que vous avez prévues qui permettent à ces gens d'apprendre certaines choses ou d'être mis en valeur en fonction des propositions, des suggestions qu'ils pourront apporter?
Alors, par rapport au gouvernement, oui, nous avons invité le gouvernement, surtout les ministères qui sont les plus, je dirais, pertinents en termes de la thématique, donc les ministères porteurs, on les a invités. Alors, en termes d'organisation, parce que ça c'est un élément intéressant aussi à noter, c'est qu'on a un ensemble de panélistes qui ont des compétences, des connaissances et même une vision assez avancée de la question, donc qui vont intervenir dans un panel. On aura donc dans un premier temps un panel, et après les panels, il y aura une table ronde. Et c'est au niveau de la table ronde que tous les participants vont échanger autour des problématiques, des causes, des déficiences qu'on a en termes de transition verte en RDC. Faire des propositions, et si au base de ces propositions il y aura une restitution, donc en pleine séance on va faire une restitution et voir quelles sont les pistes qu'on peut retenir pour au fait faire que ce soit la sensibilisation ou au mieux mettre en place des programmes qui permettent à ce qu'on renforce la capacité de la population et de la communauté locale sur cette question-là.
Donc l'événement commence avec un panel, les experts s'expriment. Ensuite, il y a maintenant une table ronde où tout le monde a la possibilité de réagir. Et en fin de compte, vous allez procéder à des conclusions.
Oui.
Et de 9h à
16h.
À 16h. Donc on est parti sur quand même une journée qui sera remplie jeudi. Hein. Donc vous êtes. En ce moment, je pense qu'il n'y a plus de place. Donc pour ceux qui n'avaient pas eu le temps de chercher à s'inscrire en ce moment, pas possible de chercher une place. Parce que je crois, je vous le dis, il y a des fidèles qui vont fort heureusement ou je ne sais pas malheureusement se convertir ce soir. Il n'y a plus possibilité de s'enregistrer?
Ils peuvent toujours le faire. Ils peuvent toujours le faire. Mais l'élément à retenir, c'est que si vous recevez une confirmation, vous êtes le bienvenu.
D'accord. Alors, on y va à Colouésie. Comment ça va se passer? Les échanges cette année vont centrer sur, là-bas, vont centrer sur les thèmes combler les fossés des compétences dans l'industrie minière. Vous l'avez évoqué à un moment, l'industrie minière qui est l'industrie de référence de la RDC au niveau international. Quand on voit la RDC aller investir, généralement, les gens voient les mines aussi. Alors, vous avez quelque part parlé de l'image qu'il y a et des compétences aussi. Quelqu'un veut investir, mais on parle souvent des travaux qui se font à la main et certaines réalités pas du tout correctes. Et ces thèmes et part avec aussi les questions d'habileté, la main-d'œuvre minière des EDEM. Alors, quel est le but derrière ces thèmes et comment les choses vont se passer?
Alors, avant d'aller pour préciser les buts de ce thème, je crois qu'il faut remettre d'abord les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, si vous prenez, je ne sais pas, les derniers iPhone qui est sur le marché, vous prenez un iPhone 15 ou bien 16, je ne sais pas, 15 Pro Max, vous donnez ça à mon grand-père, il ne saura pas l'utiliser.
C'est vrai.
Alors, il y a des options.
À moins qu'il soit très connecté.
Voilà. Donc, il y a des options qui sont ajoutées dans iPhone qui peuvent servir à faire beaucoup de choses qu'on ne faisait pas avant avec les téléphones, mais lui ne saura pas l'utiliser. C'est le cas dans le secteur minier en RDC. Les secteurs miniers, il y a des technologies très avancées qui sont utilisées ailleurs. Il y a même des technologies de demain pour rendre les secteurs miniers un secteur vert qui sont déjà développés ailleurs. Mais dont nous ne disposons pas des compétences localement. Je prends un autre exemple. Vous avez une entreprise minière qui est basée, par exemple, à Durba. Mais à Durba, vous n'avez aucune institution universitaire qui forme les gens dans les compétences nécessaires pour les secteurs miniers. Vous voyez? Alors, il y a d'une part l'offre qui existe et la demande. Il faudrait faire en sorte que les deux puissent se rencontrer. Vous avoir des demandes de telles compétences, mais vous n'avez pas l'offre qui est disponible localement. Si vous regardez dans les grandes entreprises minières, pour des postes élevés ou bien pour des compétences, notamment technologiques, on fait généralement appel aux expats. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas ces compétences localement. Donc l'idée de ces forums, ce serait d'identifier ces gaps, d'identifier cette absence, cette limite de connaissances, afin que nous soyons à mesure de mettre en place un programme permettant de renforcer les capacités dans le secteur minier et faire en sorte qu'on puisse avoir ces compétences localement et créer des emplois localement.
Donc c'est vraiment un événement qui s'inscrit dans la durée aussi avec une suite. Donc après l'activité, ces panels, cette rencontre, ces moments d'échange et de discussion avec la main d'œuvre locale, il faudra noter quelques points sur lesquels il faudra miser pour des formations. Alors ces formations, comment ça va se faire, bien qu'on n'est pas encore là, et ce sera financé, ce sera accompagné par des films, comment ça va se passer? Parce que ça également, pour faire venir cette expertise, il faudrait énormément de choses.
Alors l'un des thèmes qu'on aimerait aborder lors de ce forum, notamment pour la partie atelier, c'est de voir la coordination entre les différents acteurs. Dans cette coordination, vous avez des institutions internationales, vous avez les secteurs publics, vous avez les secteurs privés. Donc, il faudrait arriver à travailler en symbiose pour être en mesure de financer des programmes pertinents permettant de couvrir, au fait, ces gaps dans les secteurs miniers. Donc, tout de suite, je ne pourrais pas forcément vous dire quelle serait la meilleure option pour financer ce type de programme, pour avoir ce type d'expertise, mais à l'issue du forum, on saura déterminer quelle serait la meilleure option parce que c'est un point sur lequel on devra aussi discuter.
Mais il y a quand même des garanties que ces programmes seront mis en place.
Oui, les possibilités existent comme c'est un besoin qui est réel. Alors nous pensons pouvoir être en mesure de mettre en place ce type de programme.
Alors, et je vais revenir vers vous. Kélo Bantou se démarque également par la qualité des échanges. Ce n'est pas la première fois que vous l'organisez. Depuis 5 ans maintenant, vous êtes dans la cour. Alors, qui vont intervenir cette année? Parce que la qualité des échanges, c'est aussi des experts. On ne va pas parler des compétences vertes et des personnes qui viennent animer les débats ne sont pas compétentes ou n'ont pas une expertise avérée. Et qu'est-ce que nous avons sur la line-up cette année?
Sur Colosi, par exemple, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que déjà, l'industrie minière, les intervenants seront essentiellement les responsables ou les directeurs de ces différentes entreprises minières, mais aussi pas seulement ceux qui pensent ou qui réfléchissent aux stratégies, mais surtout les techniciens, c'est-à-dire ceux qui maîtrisent aussi eux-mêmes ces compétences en question. Donc nous aurons ces différentes catégories de personnes qui seront là. Nous avons les différents organismes internationaux qui déjà effectivement avec différents projets de renforcement de capacités sont aussi experts en la matière. Nous aurons ces différentes personnes, mais nous aurons aussi un bon nombre des directeurs des ressources humaines. Et nous savons ce que ça veut dire quand on parle de directeurs des ressources humaines. C'est-à-dire que ce sont ceux-là qui connaissent en réalité les compétences que nous avons en entreprise, qui connaissent plus ou moins les compétences qui se retrouvent dans le marché de l'emploi, et ensemble avec nos experts effectivement du capital humain, et bien nous vous garantissons que nous réfléchirons à à des solutions pertinentes et adéquates afin effectivement de combler ce gap-là. Et l'élément intéressant aussi qu'on pourra ajouter, c'est celui-ci. C'est vrai qu'il y a des compétences assez innovantes, hein, qui existent, comme ce que David vient de dire, mais l'idée aussi serait de s'y rassurer. Les compétences que nous avons déjà en ce moment, à quel niveau nous les maîtrisons ? Est-ce que nous les connaissons seulement de manière basique ou bien nous sommes experts en ces matières ? Parce que à quoi ça servirait par exemple de maîtriser une compétence high level d'une dernière technologie alors que les bases par exemple de cette compétence nous sont plus ou moins dubitatifs par rapport à cela. Donc voyez un peu la pertinence des différents échanges que nous ferons afin de se rassurer effectivement que nous avons des personnes, la bonne personne à la place qu'il faut.
Oui, ça c'est surtout pour au Colésie et à Kinshasa.
À Kinshasa, nous allons toujours dans la même réflexion, c'est-à-dire nous avons les experts de ces différents domaines sur les questions vertes, sur les questions climatiques. Nous avons effectivement des décideurs de gouvernement. Nous avons les techniciens et les praticiens, c'est-à-dire les différents entrepreneurs qui se retrouvent dans ce genre de domaine effectivement, qui ici auront la possibilité d'apporter des inputs pertinents.
Alors c'est difficile, c'est vrai, hein, d'évoquer certainement tous leurs noms ici. Sur les réseaux sociaux, vous communiquez ou c'est surprise? Il faut les découvrir pendant l'événement.
Nous communiquons essentiellement. Je crois que vous pouvez voir ça déjà sur
comment
nos pages.
Vous dites à nos auditeurs, comment vous le dites, comment vous les directionnez vers le page, les réseaux sociaux pour aller retrouver et tous ces profils. Quel nom, quelle adresse?
Ok, alors David pourra me compléter. C'est bien www.kelobantu.org.
Aussi sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram.
Sur LinkedIn, c'est simple, juste écrire Kelobantu et cela apparaîtra sur toutes les pages des réseaux sociaux.
Kelobantu, beaucoup pourraient se poser des questions. Kelobantu, c'est en Kikongo, c'est en japonais, c'est en quelle langue? Oui, je disais que ce n'est pas pour la première fois, mais c'est vrai qu'il y a toujours des gens qui entendent parler d'un Kelobantu pour la première fois. Et qu'est-ce qu'il faut retenir d'un Kelobantu?
Alors, quand vous entendez parler de Kelobantu, retenez simplement capital humain.
Capital humain. Ça veut dire capital humain.
Le capital humain, ici, on voit les compétences. Avec Kelobantu, on voit essentiellement tout ce qui est renforcement des compétences. Donc, on essaie de renforcer les capital humains parce qu'il y a, dans les différents facteurs de production qu'on a, il y a les capital physiques. Vous pouvez avoir un capital matériel tel que vous êtes là pour travailler. Si vous avez besoin d'un micro, vous avez besoin d'avoir un studio, ainsi de suite. Ça, c'est votre capital matériel, votre capital physique. Mais vous avez besoin d'un capital humain, une tête qui réfléchit, pour poser les questions
sans
pertinentes.
C'est compliqué.
Donc, sans l'homme, ça ne marche pas. Donc, nous, notre objectif, c'est maintenant renforcer ce capital humain.
Alors, comme vous vous êtes fixé ces objectifs, vous définissez en même temps non seulement comme un événement, par exemple le forum, mais vous définissez également comme un réseau d'affaires, une boîte, un conglomérat ou...
Non, Kelobantu, c'est pas un conglomérat. Kelobantu, c'est, je dirais que c'est une plateforme qui permet à ce qu'on puisse définir un cadre pour que les personnes puissent mener des réflexions qui permettent à ce qu'on puisse aboutir à notre objectif final qui est le développement du capital humain. Donc c'est une plateforme où il y a pas de concurrence, il y a pas de parti pris. Les plus importants pour Kelobantu, c'est la réflexion. Les plus importants pour Kelobantu, ce sont les résolutions.
Donc en quelque sorte, c'est proche, en tout cas, d'un réseau d'affaires. Mais et comment vous définissez alors l'événement? L'événement n'est qu'une suite d'autres événements organisés par Kelobantu, ou c'est vraiment d'ailleurs l'événement qui crée cette boîte, cette plateforme?
Alors, pour atteindre les objectifs de Kelobantu, Kelobantu a plusieurs objectifs. Alors, pour atteindre les objectifs de Kelobantu, nous mettons en place plusieurs types d'activités. Si l'événement, par exemple, qu'on aura à Kinshasa et à Colosie, c'est le forum annuel. Ça vient une fois l'année. Mais en dehors du forum annuel, on a des workshops qu'on organise, tels qu'on l'a fait cette année avec le workshop sur la gestion des droits d'auteur et droits voisins en RDC. Il y a des job fairs qu'on organise aussi. On met en contact les demandeurs d'emploi et les offreurs d'emploi, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs activités qui sont organisées comme ça l'année pour permettre assez qu'on puisse répondre à l'un des objectifs qui est de bon, tout ça peut être l'objectif d'aider les jeunes par exemple à trouver l'emploi, ça, donc il y a plusieurs objectifs comme ça et il y a des activités qui sont mises en place en phase avec ces objectifs.
Alors la semaine passée vous avez organisé une table ronde sur la gestion de droits auteurs et les droits voisins. Vous avez dit que vous organisez des événements sur les besoins, sur les obstacles que vous remarquez notamment dans la société ou dans les différents secteurs d'activité. C'est sur la demande de ces acteurs ou sur vous-même quand vous voyez qu'il y a un souci et après vous l'organisez. Comment ça se passe? Comment vous élaborez vos programmes ou vos activités?
Capital humain, c'est-à-dire que d'un côté, nous avons cette proximité avec, je ne vais pas dire le peuple, mais cette proximité avec la société.
Oui, les professionnels.
Nous sommes tous déjà acteurs de cette société, nous sommes des professionnels, donc nous savons plus ou moins ce qui se passe. Mais ce qui est encore intéressant, c'est que nous arrivons à faire des analyses et des études pour se rendre compte effectivement de ce qui se passe et se battre de ça effectivement que nous élaborons ces différents thèmes. Mais il arrive aussi quelquefois que certaines organisations ou certains profil assez important viennent vers nous afin d'échanger sur une certaine thématique. Et sur base de ça, effectivement, nous mettons ensemble et nous collaborons là-dessus.
Alors, la table ronde sur le droit d'auteur et le droit voisin, c'était urgent d'organiser une activité comme ça?
C'était urgent, oui, parce que déjà, ça coïncidait. Ça coïncidait avec la 7e journée, si je ne me trompe pas, en ce qui concerne l'international, en ce qui concerne la question des droits d'auteur et des droits voisins. Et ce qui est assez pertinent, c'est que quand on parle du droit d'auteur ou bien droit voisin, ou bien quand on parle de la culture ou de l'art, dans le contexte congolais, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on voit? La musique, surtout quand on parle de droits d'auteur. Mmh. On se rend compte que c'est plus que ça. Nous avons les différents artistes dans l'art visuel, l'art plastique, etc. Ceux qui font le théâtre, ceux qui font des sculptures. Et toutes ces différentes personnes sont aussi concernées par cette question de droits d'auteur et de droits voisins. Et vous vous rendez compte, par exemple, que ce qu'on a pu découvrir, c'est que la législation mise en place sur la question des droits d'auteur, qui date des années 80, est plus ou moins obsolète par rapport aux réalités actuelle, que ce soit par rapport à l'évolution de ces différentes catégories artistiques. Et ce qui était intéressant de voir, c'est que les gouvernements déjà sont en train de réfléchir sur une nouvelle loi qui sera bientôt mise en place afin de savoir comment encadrer ces différentes questions.
On peut aller sur des conclusions quand même de la dernière activité, cette table ronde, pour ceux qui ont participé quand même.
Oui, effectivement, je crois que l'une des conclusions, déjà, l'un des problèmes soulevés, c'était quoi? C'est en ce qui concerne la législation. Ce qui est intéressant, comme je l'ai dit, le gouvernement est en train de travailler sur une nouvelle législation afin d'encadrer mieux ces différentes choses. Mais on s'est aussi rendu compte qu'il y a un monopole en termes d'agence qui gère la question des droits de droits d'auteur.
Un monopole, alors que partout c'est démocratisé.
Un monopole. Et le problème avec ça, c'est que les sous-monopoles, malheureusement, sont aussi focalisés sur probablement une seule catégorie d'art. Très souvent, c'est la musique. Et ce qui est intéressant, c'est que...
Et ce qui est encore pire, même ces musiciens ne se retrouvent pas.
Voilà. Alors, il y a en plein développement une stratégie qui permettra de faire en sorte qu'il y ait une libéralisation de ces différents... de cet organisme qui gère ces questions de droits d'auteur, droits voisins, et de manière assez spécifique où vous avez probablement un organisme qui s'est spécialisé sur les questions de la musique, art musical, art plastique, si je ne me trompe pas, dans art du cinéma et art visuel. Okay? Et cela permettra à ce que chaque catégorie, plus ou moins, arrive à se retrouver et être sensibilisée par rapport à ces différentes thématiques. Mais aussi une question de renforcement de capacités. C'est-à-dire quoi? Que ce soit ceux qui travaillent sur les différents organismes-là, que ce soit au niveau des universités, au niveau du public, il est intéressant, il est important que le public déjà comprenne ce que ça veut dire. Je vous donne un exemple qui a été, je crois que c'était le directeur même de l'Académie des Beaux-Arts, qui était sur place, qui a donné un fait très concret. Vous avez ces différents artistes excellents, talentueux à un point inimaginable. Mais le problème, c'est que si vous lui demandez combien d'œuvres avez-vous déjà produites jusqu'à présent, il ne sait pas. Mais qu'est-ce qui se passe demain s'il aimerait, par exemple, réclamer ses différents droits d'auteur? Où est la preuve? Où est le répertoire?
Les œuvres ne sont pas protégées.
Et exactement. Pas seulement produites, mais ne sont pas déjà enregistrées elles-mêmes. Il n'a pas un répertoire. Pourquoi? C'est pas parce qu'il ne veut pas le faire. Parce qu'il ne sait pas que ça se passe comme ça. Donc, ces artistes aussi devraient être sensibilisés sur ces différentes thématiques. Alors, telles étaient les différentes résolutions, effectivement, que nous avons eues et les discussions continueront afin de mettre en place en tout cas des actions et des stratégies pertinentes.
Vous êtes satisfait de ces échanges? Il y avait des bonnes implications? Ça répond à vos attentes?
Oui, on était très satisfait. Surtout qu'il y avait des implications déjà. Donc, vous connaissez l'UNESCO et l'apport que l'UNESCO a sur les questions culturelles. Nous avons des experts de l'UNESCO, nous avons des experts du gouvernement, mais nous avons aussi eu des experts juridiques et des experts même de la DACO. Donc c'était en tout cas très satisfait, surtout que nous avons pu mettre en valeur certaines pistes de solutions que nous pourrons développer.
Alors ça c'est magnifique parce qu'un Kélobantou ne se limite pas qu'aux questions liées au capital humain sur des secteurs comme des secteurs bancaires ou liés minières par exemple. C'est également le droit d'auteur, le droit avancé, c'est très important. Tout le monde en Europe, et tu verras, voire même une chanson jouée dans un deuil, il faut payer. Et c'est-à-dire qu'il y a des droits qu'il faut quand même payer. Mais aujourd'hui, c'est partout que ces musiciens, ces artistes produisent des œuvres, mais qui sont utilisées sans vraiment payer des droits et ils ne se retrouvent même pas après le succès de leurs travaux. Ça, c'est énorme ce que vous réalisez. Alors, est-ce que vous avez quand même un programme annuel sur différentes activités que vous pensez organiser? Par exemple, pour cette année, vous avez dit qu'il y a cette table ronde, il y a les forums, il y a des formations. Est-ce qu'il y a un programme annuel? Qu'est-ce que vous visez l'année prochaine? Qu'est-ce que vous visez pour le prochain mois?
Alors, on va dire que pour cette année 2024, la dernière activité, parce que généralement avec Kélobantou, nous clôturons avec les forums qui est annuel. Donc, il y a des activités préparatoires au forum, telles que les ateliers et autres. Donc, pour cette année 2024, nous allons clôturer avec les forums. Mais pour l'année prochaine, il y aura d'autres activités qui vont s'ajouter en dehors des workshops qu'on va organiser. Il y aura des opportunités faire où on mettra en contact encore une fois de plus les employés et les employeurs. Mais aussi, il y a d'autres activités de sensibilisation qui seront très, très développées l'année prochaine, notamment à travers UFM qui est une radio partenaire, ainsi que d'autres structures. Et il y aura aussi un forum annuel comme cette année. Donc au moment opportun, nous allons communiquer sur les différentes activités afin que nous puissions avoir une meilleure adhésion des personnes qui sont concernées.
Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, mais surtout d'avoir répondu à toutes nos questions ce soir. Nous arrivons déjà à la fin de nos 40 minutes. Est-ce qu'il y a un dernier mot à partager aux Kinois, aux auditeurs de la 94.7 et à toutes ces personnes qui vous suivent, qui ne pourront peut-être pas venir assister à l'événement? Est-ce qu'il y a un moyen pour eux de se rattraper quand même?
Alors, nous allons communiquer comme on l'a fait avec l'atelier qu'on a eu. On va communiquer sur les grandes problématiques qui seront identifiées lors du forum, mais aussi les pistes et solutions qui seront identifiées. Nous allons mettre à la disposition du public. Et si vous allez sur notre site www.kelobantou.org, vous pouvez même télécharger les rapports des tous les précédents forums. Donc, dès la première édition à la quatrième édition, les rapports sont gratuits. On fera la même chose pour cette année. Donc, les gens pourront avoir accès à ces informations.
Donc on se dit à jeudi 9h à Rotana. Donc préparez-vous très bien. Et pour ceux qui ont déjà reçu la grâce d'avoir ces confirmations, on se retrouve là. Merci de nous avoir suivis. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre rendez-vous dès ce soir. C'était la passerelle entre l'employeur et l'employé YouJob. Discussion dès ce soir autour de cet événement qui aura lieu jeudi et Kélobantou autour du sujet l'innovation et les compétences vertes. Je pense que vous savez que vous avez chacun une responsabilité sur l'écologie, sur la protection de l'environnement. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez jamais à nous écrire sur les réseaux sociaux YouJob, UFM, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn et un peu partout.
Dans le but de fournir une passerelle entre l'employeur et l'employé, la UFM vous propose tous les mardis
de 19h05
la YouJob. Un débat sur le sujet lié à l'emploi, des offres d'emploi et même des conseils.